parle.
Luc, il y a certains de nos auditeurs qui ont de l'humour. Il y en a un qui nous dit, l'autobus du PQ, c'est comme une canette de Four Loko. Il y a trop de couleurs dessus, mais c'est ce qu'il y a dedans qui risque de vous donner mal à la tête.
Elle est très bonne.
Il y a un auditeur aussi qui me rappelle dans quelles circonstances le IKEA avait fermé en 96 à Québec. Il dit, on avait perdu les Nordiques pas longtemps avant. On était déjà...
C'était presque en dedans d'un an.
Hein. On était déjà humiliés par ça. Là, on perd le IKEA. On nous dit, le centre d'achat dans lequel ça se trouvait est en péril, etc. Ça a été deux coups, coup sur coup, qui ont porté atteinte à, je te dirais, à la fierté, à l'orgueil, au plaisir des gens de Québec. Puis, je pense qu'effectivement, il y a dans le succès surprenant de l'ouverture du IKEA, une partie de ce dont notre invité va nous parler dans quelques instants. Mais
c'est très intéressant ce que tu racontes.
Mais aussi une espèce de reconquête pour les gens de Québec, une façon d'effacer une période sombre.
Et tu me disais, ça s'est lancé, cette période-là de reconquête, avec les fêtes du 400e.
Aux fêtes du 400e, quand Daniel Vigelina a été nommé pour sauver des fêtes qui étaient très mal parties avec un spectacle épouvantable au premier de l'an, les gens de Québec ont embarqué. Puis ont embarqué en disant, c'est pas vrai qu'on va être des losers toute notre vie.
Ouais. Puis à l'heure actuelle, ben ça marche, l'affaire de Québec. Là, parce
le
que
festival
c'est...
d'été, l'omelé. Bon.
Oui, puis la prospérité. Oubliez pas que c'est une des villes les plus prospères, pas du Québec, du Canada.
Mais je pense que dans le IKEA, il y a plus.
C'est ça,
il y a plus que juste le succès de la marque. Il y a aussi quelque chose de profond dans la société de Québec.
Voilà.
Maintenant, notre invité connaît ça, les succès de marque. Il s'appelle Luc Dupont. Bonjour, Monsieur Dupont.
Bonjour à vous deux.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Vous êtes spécialiste en marketing. On savait déjà qu'on attendait l'ouverture du IKEA avec impatience. Mais là, 3000 personnes, dont certaines qui couchent sur place, malgré le mauvais temps.
Sous la pluie.
C'est... Comment vous l'expliquez?
Oui, il y a effectivement ce que vous racontiez il y a deux instants, très intéressant. Oui, il y a ça, il y a 1995-96 qui était une séquence extraordinairement difficile pour l'amour propre, hein, l'ego de la ville de Québec. Il y a bien sûr les Nordiques. Il y a aussi le fameux vote pour les Jeux Olympiques. On nous avait dit, c'est pas grave, on a perdu les Nordiques, mais on aura les Jeux Olympiques éventuellement. Et ça s'était passé, on avait annoncé tout ça quelque part, Place Duville, puis on avait eu quelques votes, je me souviens.
C'était humiliant, là. Je pense qu'il y avait 7 votes sur 100 quelques,
quelque chose comme ça. Et on nous avait absolument annoncé au moment du départ des Nordiques, faites-vous-en pas, on va avoir encore plus gros que ça. Les Jeux Olympiques, ça va être majeur, vous le regretterez pas. Et coup sur coup, on avait eu, perdre évidemment un magasin comme IKEA. C'était unique d'ailleurs à l'échelle planétaire, hein, je tiens à le préciser. Là. C'était pas rien. Là. Il y avait eu un communiqué même qui avait été émis par IKEA annonçant la fermeture du magasin, ce qui là aussi est absolument exceptionnel. Bon, puis toutes sortes d'autres petits clins d'œil aussi qu'on a oubliés avec le temps. On parlait de magasins, je pense à Harry Rosen aussi, qui avait fermé dans les mois qui avaient suivi. On avait annoncé que les quelques joueurs des Nordiques à l'époque représentaient quelque chose comme 40% du chiffre d'affaires de la business. Okay. On parlait de veston dans le temps qui coûtait, le veston cravate qui pouvait coûter là, 4 à 5 000 $ pièce. Là. C'était absolument dément.
Donc, on avait vécu une séquence très difficile.
Oui, très, pour l'amour propre de la ville. Et effectivement, le retournement, c'est bien sûr le 400e. C'est le show de Paul McCartney aussi, qui a complètement transformé. Ne serait-ce, là, on a parlé des montants à l'époque qu'on lui avait donné, il est venu une deuxième fois, mais reconnaissons que la première fois, là, c'est là que ça s'est assurément joué. Et je le sais que ça avait coûté une fortune pour l'invité, mais sur le plan strictement de l'image, j'aurais le goût de vous dire qu'on était rentré dans nos sous. C'est-à-dire que sur ce plan-là, il y a eu une... Et si bien qu'aujourd'hui, et moi, je me promène aux quatre coins du Québec là, depuis 28, 29 ans dans le cadre de conférences, puis je me souviens qu'avant ce moment-là, là, Québec, je serais un peu méchant, là, quand je racontais que je venais de Québec, c'était une ville de perdants.
C'est ça, hein?
Et il s'est passé quelque chose. Et ça, que je suis obligé, je le constate. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'entends plus maintenant.
Dites-moi quand même, M. Dupont, Québécois de souche, au-delà du phénomène Québec, il y a quand même un phénomène de brand. Là. IKEA a fini par construire mondialement une espèce de... excusez l'anglicisme, de following incroyable, un peu comme Apple.
Oui, il y en a très peu comme ça, des marques comme celle-là. Harley-Davidson, mettons que j'en chercherais d'autres, là, il y en a très, très peu.
Mais Harley-Davidson, à côté de ça, c'est marginal en termes d'importance planétaire.
Oui, mais Harley Davidson avait fait, il y a quelques années, à Milwaukee, avait fêté son centième anniversaire, puis il y avait au-delà de 125 000 personnes qui s'étaient déplacées. C'était pas si mal. Mais si on cherche ces marques mythiques-là, oui, il y en a une poignée, en fait, avec les doigts de deux mains, Coca-Cola, quelques-unes. Mais IKEA, oui. Puis, pour vous donner une idée de ça, on pense, en fait, on croit aujourd'hui qu'il y a autour de 10 % des enfants européens qui ont été conçus dans des lits IKEA. Alors, c'est-à-dire la popularité de la marque. C'est 1 % de tout le bois consommé sur la planète. Et le pire, c'est que c'est un accident de parcours IKEA. C'est l'histoire d'un gars qui est pas très bon à l'école. À un moment donné, il revient, il y a 17 ans, à la maison. Il y a un bon bulletin. Son père le regarde et dit, ben, je vais te donner un petit peu d'argent parce que t'as pas l'habitude d'avoir ben des gros bulletins. Et il décide de créer une petite entreprise à l'origine qui vend par la poste des objets. Alors, c'est des montres, c'est des crayons, et ce sont des meubles. Et là, il y a un méchant problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une commande pour un meuble. Mais il n'est pas capable de le poster. Vous aurez compris que la chaise, là, comment je la poste, là, la boîte, la grosseur de la boîte, puis la table, puis le divan. Et il y a quelqu'un qui, en tentant d'entrer le meuble dans le camion, dit, sais-tu, si on le démontait, il entrerait plus facilement. Et c'est comme ça. L'idée, c'est ça. Alors ça, c'est le positionnement de départ. Évidemment, toute une série d'idées géniales. C'est-à-dire que quand vous êtes au IKEA, c'est une expérience. C'est-à-dire que les gens qui sont au IKEA, là, sont pas à Sainte-Foy, sont pas à Québec, sont en Suède. La boulette s'appelle pas boulette de viande, elle s'appelle catbouleur. Hein? Oui. Tout est pensé. Il y a des flèches à terre. S'il y avait des flèches dans un Walmart en entrant, en vous disant, vous tournez à droite en entrant, vous vous rendez au bout, vous retournez à gauche par la suite. Jamais on le ferait. Est-ce qu'on le fait au IKEA?
Oui.
Oui, on le fait.
On le fait parce qu'il nous amène dans une balade qui nous permet d'avoir des idées déco, puis on finit par acheter des affaires dont on n'avait pas besoin.
Oui. Mais il y a tout ce côté, M. Dupont, chez IKEA, de s'associer à des causes et de défendre des idées et de prétendre que leurs meubles s'associent à des concepts de paix, à des concepts de développement durable. Est-ce que ça contribue au brand?
Certainement dans ce contexte-là, mais ce serait le détail à côté. C'est-à-dire, c'est le petit plus qui fait souvent toute la différence, évidemment, mais au-delà de ça, il y a le design accessible. C'est le sentiment qu'on a quelque chose qui est beau puis qui n'a pas coûté trop cher. C'est la garderie, c'est le resto. Pourquoi? Bien, parce que IKEA s'est aperçu que plus vous restez longtemps dans le magasin, bien sûr, plus vous risquez d'acheter. C'est un vieux principe, vieux comme le monde dans le commerce de détail. C'est le panier là, sur lequel vous mettez vos objets que vous achetez, ben il y a un petit détail qui est pas anodin. Les roues d'en avant bougent comme tous les paniers nord-américains, mais les roues d'en arrière bougent également. Alors c'est ça l'expérience. L'expérience, c'est quoi? Il y a peu d'employés. Alors, quand on demandait au fondateur pourquoi il faisait ça, il répondait, c'est parce que les gens aiment pas avoir le sentiment qu'ils sont poussés, la pression, là, achetés, là. Évidemment, ce qu'on sait depuis, c'est que, évidemment, quand il y a peu d'employés, l'avantage parallèle, c'est que ça coûte un petit peu moins cher. Et c'est la même raison pour laquelle il utilise encore un vieux média, vieux comme le monde, que tout le monde nous annonce qui est fini, parce que c'est à la mode d'annoncer la fin des médias traditionnels. Puis évidemment, faut jamais tomber dans ce panneau-là. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on est en train de se parler, vous et moi, à la radio. Mais c'est son catalogue qui est tiré à chaque année, qui est un événement qui est souvent lancé quelque part en juillet, 210 millions de copies.
On vient de le recevoir, puis effectivement, c'est un rituel. On prend le temps de le faire.
Et la beauté des photos et le côté artistique qu'on y retrouve est extraordinaire, tout comme les quelques pubs TV qui font à l'occasion.
Oui, et dans le cas de IKEA, ce que je trouve là aussi génial, on parlait des employés il y a deux instants, c'est qu'à l'origine, on avait dit, on va engager des acteurs professionnels pour les photos, pour que ça soit beau, et le fondateur avait dit, non, parce que les acteurs professionnels, ils coûtent cher. Puis si on veut vendre nos meubles pas trop cher, il faudrait que ce soit des gens pas professionnels. Puis des gens pas professionnels, ça s'appelle communément des employés du IKEA. Donc, c'est toute une série comme ça de petits détails. Peu d'employés. Les îlots sont très abondants. Alors, vous avez jamais le sentiment d'acheter le dernier non plus. Sur l'étagère, il faut jamais avoir ce sentiment-là non plus. Puis il y a tous les noms des produits. Et là, il faut savoir que le fondateur était dyslexique. Okay. Alors, lui, il s'était dit, faut que je trouve une façon simple de créer les familles de produits pour que ce soit facile après ça de s'en souvenir. Et ça a donné naissance à tout ce qu'on concept-là.
Et donc, les bibliothèques Billy qui existent depuis 40 ans, je pense.
Oui, et je serais surpris de savoir le nombre de personnes qui nous écoutent actuellement qui ont une bibliothèque Billy à la maison. Je pense qu'on serait absolument renversé.
Il est décédé il y a à peu près un an et demi. Il y avait 100 ans passé, je pense.
Oui.
Mais c'était aussi un personnage d'immense controverse.
Oui, absolument.
Qui avait trouvé les nazis de son goût,
entre autres, ça avait été raconté initialement dans un article de journal, puis éventuellement, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus. Mais on parle d'un radin là, de la pire espèce. Là,
c'est incroyable.
Je vous parle de quelqu'un qui se vantait de n'avoir jamais acheté un vêtement neuf.
Et de jamais avoir conduit une voiture neuve.
Oui. Alors, le petit problème dans le bouquin, d'ailleurs, sa bio en question, quand on a gratté par après, on s'est aperçu, bon, il y avait un vignoble, il y avait une Porsche aussi, mais effectivement, il avait une vieille Volvo. Mais moi, le summum, c'est qu'il... il conservait ses poches de thé.
Hein?
Il les recyclait. Alors, quand vous recyclez votre poche de thé, vos sacs de thé, là, je pense que vous êtes, il y a quelque chose qui va pas très, très bien au deuxième étage.
Il est mort célibataire, probablement?
il a eu parfois, oui, mais ça a jamais été un très grand succès, effectivement. Je pense qu'on pourrait raconter ça.
Il y a personne qui peut endurer ça, là.
Oui, puis il
était pas endurable, hein.
Non, il était pas endurable. Et c'est lui qui a inventé les fiducies, les entreprises, là, qui sont créés à tel endroit, puis qui ont un pied à terre à tel autre endroit.
Officiellement, le siège social est à Amsterdam, n'est-ce pas?
Oui, puis il a déplacé ça en fonction des époques aussi. À un moment donné, d'ailleurs, quand les marchands de meubles en Suède ont dit « on va arrêter de te vendre parce que tu es tellement important qu'éventuellement tu vas acheter nos business », il s'est tourné du côté de la Pologne et il a fait d'une pierre deux coups parce que là, il s'est aperçu qu'il pouvait avoir des meubles moins chers, à peu près de la même qualité. C'est quelqu'un qui se vantait aussi d'écrire des deux côtés d'une feuille de papier. Il disait, jetez jamais une feuille de papier si vous n'avez pas écrit des deux côtés. Ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, c'était un personnage très, très, très spécial.
Et malgré ça, la marque a une aura extraordinaire.
Oui, c'est unique. Lui-même, à la fin aussi, disait, écoutez, je ne vous ferai pas à croire que je pensais que ça deviendrait ça. Sa stratégie aussi d'attaquer les marchés internationaux les uns après les autres. Alors, bien sûr, la Scandinavie dans les années 60, le Canada en 1976 en Colombie-Britannique. Et curieusement, et c'est très, très rare dans le domaine du marketing de marque, les États-Unis après le Canada, en 1985.
Ah, ouais?
Et récemment, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent puis qui se disent « ça n'a pas de maudit bon sens, on est en train de parler d'une marque avec des milliers de personnes dans un stationnement puis qui veulent voir ça
ouais. »,
je vais vous rassurer, quand on a ouvert le premier IKEA en Corée du Sud récemment, on a assisté à des bouchons de circulation monstres au centre-ville.
Donc, c'est pas unique à Québec. C'est pas seulement parce qu'on essaye d'effacer un mauvais épisode.
C'est pas unique à Québec, effectivement. Et ça montre encore une fois, au risque de se répéter, la puissance de la marque. Et ça nous rappelle qu'une marque n'a pas de réalité. Elle n'est qu'image. C'est-à-dire que ce qu'on pense qu'est la marque...
Mais elle est vivante aussi.
Elle est vivante, oui, absolument. Et quand vous parliez de tous les aspects sociaux, hein, tout l'à côté de ça, là, ce qu'on appelle communément la responsabilité sociale en marketing, là, tout ce petit plus-là, là, qui fait souvent d'ailleurs toute la différence, mais là, vous avez affaire à une marque qui est assurément dans une catégorie absolument à part. Et si je vous avais dit, il y a 50 ou 60 ans, qu'on allait se lancer un magasin de meubles avec des meubles démontés, vous m'auriez probablement dit, ça n'a pas de maudit bon sens. De la même manière que si je vous avais dit un jour qu'on créerait un magasin puis il faut s'abonner, il faut avoir une carte de membre pour entrer dans le magasin et que les produits sont sur des palettes, je pense à Costco ici, évidemment, vous m'auriez probablement dit, quoi, on va payer pour entrer dans un magasin et il n'y aura pas d'étagère, ça ne marchera pas.
C'est un phénomène que je comprends moins en passant, mais je constate qu'il existe.
Il existe, absolument.
Merci beaucoup, Monsieur Dupont.
Très intéressant.
Donc, deux phénomènes qui sont simultanés. La force de la marque, malgré tous les défauts du fondateur.
Et Québec qui va reconquérir sa fierté.
Oui, c'est un deux dans un, absolument. Et ça explique assurément la folie d'aujourd'hui.
Merci.
Merci.
Au revoir. 11h59 minutes.